Il est 18h19. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 ce dimanche soir, veille de rentrée scolaire pour les élèves de la région parisienne, de Toulouse, de Montpellier notamment. Et la situation sanitaire mérite qu'on s'arrête sur l'évolution des protocoles pour protéger évidemment les enfants, les professeurs. Nous rejoignons d'abord Delphine Burkly, maire du 9e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir Madame Bouchard.
Avec un dispositif que j'aimerais que vous nous détailliez. Alors il n'est pas nouveau, mais il se trouve que l'actualité Covid le rend vraiment intéressant et opérant, celui des capteurs d'air. Vous les avez installés il y a 3 ans dans les classes de vos 20 écoles. Comment marche-t-il d'abord et comment les avez-vous ensuite fait évoluer à l'aune de ce virus ?
Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire à Paris. Je voudrais d'abord remercier nos directeurs d'école, nos enseignants, nos personnels en charge du périscolaire, nos cantinières, qui appliquent avec beaucoup de soin, beaucoup de rigueur et d'agilité les protocoles sanitaires depuis plusieurs mois maintenant. Bien sûr, c'est une situation très difficile pour tout le monde, mais vraiment, je tiens à le dire, tout est vraiment mis en œuvre pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles pour suivre leur scolarité, et c'est là l'essentiel. Alors, vous parliez du dispositif, en effet, que j'ai mis en place déjà depuis 3 ans, de capteurs d'air et de purificateurs d'air dans les 150 classes de nos 20 écoles maternelles et élémentaires. Et d'ailleurs, dans l'actualité, dès demain matin, j'installerai des appareils de mesure dans 2 écoles de l'arrondissement pour évaluer l'efficacité du dispositif. Parce que ce dispositif a 3 ans et il est important de mesurer l'efficacité du dispositif. Vous savez, la qualité de l'air intérieur est un véritable enjeu de santé publique. Il faut penser aérer le plus souvent possible, mais ça ne suffit pas. Nos enfants passent 45% de leur temps dans les salles de classe. Et l'air intérieur, on le sait, plusieurs études en attestent, est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors c'est vrai que j'ai voulu, il y a plusieurs années, dans le cadre de mon premier mandat en 2014, m'attaquer à cette problématique. Nous sommes pour l'instant les seuls à Paris à avoir équipé nos classes de ces capteurs, de ces purificateurs. Et demain, ce sont les réfectoires et les crèches qui seront concernées.
Pardonnez-moi Delphine Burkly, oui. ça nous interpelle que vous soyez la seule mairie d'arrondissement à avoir installé ces capteurs. Qu'est-ce à dire ? Qu'ils ne sont pas forcément encore efficaces, que du moins l'efficacité n'est pas prouvée dans la lutte contre le Covid, parce que ça fait 1 an qu'on vit dans cette épidémie, et on aurait pu s'inspirer de votre exemple.
Ce dispositif, il est d'abord efficace contre les pollens, les particules, les poussières, les particules de diesel. Il protège aussi contre la pollution atmosphérique. Et sans le savoir, puisque je ne pouvais pas le savoir il y a 3 ans, plusieurs études en attestent et démontrent que ce dispositif est utile contre les Covid. Et c'est le cas d'un rapport qui a été publié encore hier par la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection et de santé publique. Ce n'est pas n'importe quoi, hein, c'est un travail de chercheurs, un travail collectif qui confirme que ces outils sont performants en matière de lutte contre la Covid, ce qui me conforte dans la démarche que j'ai engagée depuis 3 ans dans le 9e arrondissement.
Évidemment.
Alors, j'espère que cette démarche pourra essaimer à Paris et ailleurs. Nous évaluons le dispositif dans les 15 prochains jours.
Très bien.
Évidemment, c'est pour un gage de transparence et d'efficacité, une association tiers, l'association Respire, présidée par Olivier Blon, qui pilotera et contrôlera le dispositif de contrôle. C'est une association reconnue, militante sur les questions environnementales et en particulier sur la question des pollutions atmosphériques. Et moi, je suis très honorée qu'Olivier Blon et son association soient pleinement engagés à mes côtés dans cette démarche qui est en effet unique qu'à Paris. Mais j'espère vraiment que nous arriverons à convaincre l'ensemble des acteurs parisiens et au-delà de mettre ces dispositifs en place.
D'ailleurs, en effet, pour nous permettre de vivre avec le virus et de protéger.
Surmonter, c'est un moyen aussi de surmonter la crise sanitaire et de préparer l'avenir. Ce qui vaut pour la petite enfance et pour les écoles, mais vaut aussi, Madame Bouchard, pour les salles de spectacle, pour les gymnases,
pour les
salles de spectacle. J'en ai parlé encore il y a 3 semaines avec Roselyne Bachelot, qui est sur le principe d'accord.
Très bien.
On ne pourra reprendre une vie normale que si nous équipons nos établissements publics avec tels dispositifs.
Voyons ce que donnera l'expérimentation qui commence demain pour une 15aine de jours avec ces nouveaux appareils de mesure. J'aimerais que nous rejoignent dans cette discussion le docteur Franck Clarot. Bonsoir à vous.
Bonsoir Madame Bouchard.
Vous qui êtes radiologue, merci de prendre quelques secondes de votre temps parce que je crois que vous êtes actuellement sur le pont. Vous relayez régulièrement des données scientifiques intéressantes car vous avez cofondé le collectif Du Côté de la Science et vous retrouvez sur ce sujet-là Delphine Burkly parce que vous parlez beaucoup de la purification de l'air justement qui s'affiche comme un critère aujourd'hui essentiel, manifestement.
Tout à fait, surtout que le CDC vient de publier des nouvelles recommandations dans ce sens. Alors nous, avec le collectif du côté de la science, on en parle depuis des mois et on essaye de sensibiliser la population, les médecins et les politiques au risque de l'aérosol, puisque c'est une des voies de transmission les plus importantes du virus, c'est-à-dire qu'en fait, il se transmet comme la fumée de cigarette, on va dire. Et le CDC vient de sortir un avis, donc on est plutôt content que ça sorte aujourd'hui, puisque c'est vrai que cela va pouvoir appuyer un peu plus notre démarche et nous espérons pouvoir permettre des aménagements dans les écoles. Donc ouvrir les fenêtres, ça c'est quelque chose que l'on fait tous, je l'espère, et c'est quelque chose de base. Quoique visiblement dans certaines écoles c'est compliqué parce que les vitrines ne fonctionnent pas très bien ou alors il y a des problèmes de température. Là on parlait des purificateurs d'air. Les purificateurs d'air sont une très bonne solution, mais il y a quand même quelques recommandations techniques à suivre. Il faut au moins des filtres qu'on dit HEPA, c'est-à-dire des filtres extrêmement fins qui sont capables d'attraper.
Oui, et dont vos purificateurs sont munis, Delphine Berkley, pour répondre à Franck Claro.
Exactement.
Voilà, donc, bah écoutez, c'est très bien, puisque en fait, il faut des filtres spécifiques qui puissent retenir plus de 99,97% des particules qui font entre 120 et 150 nanomètres. Oui. Sinon, ça ne fonctionne pas sur le Covid.
D'accord.
Alors, on peut aussi améliorer les choses en mettant un virucide, c'est-à-dire un produit qui tue les virus, en entrée de la soufflerie, enfin, en tout cas, de l'aspiration. Et ensuite, on récupère un air qui est plus pur. Et cela peut, donc, à la fois, ça renouvelle l'air, mais à la fois, ça peut aussi capter les virus.
Oui. Donc, ça, c'est. Ce qui est étonnant à vous entendre l'un et l'autre, parce que c'est réfléchi. Les réflexions sont très abouties aussi scientifiquement. Vous parliez des rapports américains d'Delphine Berkley, mais les Japonais ont intégré cette réflexion dès le début de l'épidémie. Et là, c'est Cécile Diener-Frölicher qui nous rejoint dans cette discussion. Vous qui êtes enseignante dans un collège de Bordeaux. Bonsoir madame.
Bonsoir à tous.
Ce dispositif ont largement tardé à être installé dans les écoles. Ils sont même extrêmement minoritaires. Comment vous l'expliquez? J'imagine que vous le déplorez, mais comment vous l'expliquez?
Oh ben parce que nous manquons de moyens. Enfin, c'est toujours le nerf de la guerre. Vous savez, autant pour l'école maternelle, l'école primaire, cela dépend des mairies et tout dépend des possibilités des mairies.
Oui.
Après, pour le secondaire, ça dépend du conseil départemental ou du conseil général. Donc, voilà, ça fait partie du mobilier qui ne dépend même pas directement du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il peut y avoir des disparités très fortes selon les départements, selon les régions. Et très franchement, ce n'est pas la priorité quand on voit déjà les difficultés qu'il y avait eu au moment des canicules pour mettre en place des ventilateurs, etc. Alors là, même en cas de crise sanitaire, on se heurte aux problèmes budgétaires.
Hein. Oui, bon, alors autre problème, c'est le calendrier d'arrivage notamment des tests salivaires. D'abord dédié au premier degré, donc aux élèves des maternelles et de primaire, un peu plus tardivement. Donc pour vous qui êtes enseignante dans un collège, et vous avez des... un horizon sur ce calendrier d'arrivage, justement, à Bordeaux ?
Aucun. C'est-à-dire qu'on a, on a bien eu l'annonce, à la fois par les médias et par la réunion ministérielle avec tous les syndicats, il y a 15 jours, nous annonçant la mise en place de ces tests salivaires, qui sont une bonne chose, effectivement, en particulier pour les plus jeunes, hein, parce que c'est vrai que les tests PCR sont assez impressionnants et assez désagréables. Mais depuis... aucune nouvelle. Nous, ça fait une semaine que nous sommes rentrés, effectivement. Il y a eu l'organisation d'un essai, d'une expérimentation dans une école à Aisines, donc proche de Bordeaux.
Oui.
Mais les enseignants n'ont été prévenus que deux jours avant, que le mardi pour le jeudi.
Oui, c'est pas encore très très organisé, manifestement.
Voilà. Ouais. Et nous n'avons aucune autre information, en fait, aucun calendrier, ni dans les écoles primaires, ni dans le secondaire.
Hein. Bon, alors que ça doit arriver massivement comme dispositif de soutien à cette lutte anti-Covid. Oui. Delphine Berkley, vous suivez assidûment cette opération. La campagne de test, elle doit commencer demain, justement, pour les élèves parisiens. Tout est prévu chez vous ?
Oui. Là aussi, c'est absolument fondamental de tester massivement pour garder les écoles ouvertes. C'est ça l'enjeu. Les tests antigéniques se poursuivront dans les écoles, les collèges et les lycées, et puis nous débuterons les tests salivaires aux primaires progressivement. J'espère que là aussi il y aura une accélération de la part des services de l'éducation nationale. À partir des données des autorités sanitaires à Paris, ce sont les écoles les plus à risque qui seront ciblées, qui seront testées régulièrement pour une meilleure efficacité. Vous savez que l'ARS, la ville, on dispose d'une cartographie pour savoir les lieux où il y a plus de cas détectée. Donc c'est à partir de cette carte que nous pourrons cibler les écoles les plus à risque. Et puis à partir de demain, les écoles demanderont également aux parents de remplir un formulaire pour obtenir leur consentement. Donc ça commence demain et après-demain, mais il faut que le dispositif puisse être massivement mis en place à l'échelle de tous les territoires.
Évidemment.
Parce que là, c'est un enjeu indispensable.
Encadré et tenu. Tenez-nous au courant, pour le coup, vous, Delphine Burkly, de cette, du bilan de cette expérimentation de ces capteurs d'air dans les classes de votre arrondissement. Cécile Diener-Frelicher, bonne semaine.
Madame, puis-je rajouter quelque chose?
Et docteur Franck Laroche, j'allais vous le donner à parole.
Quelques secondes.
Je vous en prie.
Juste quelques secondes. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit avant. On parle de filtres HEPA qui sont des machines quand même qui sont assez sophistiquées, mais un détecteur de CO2, un simple détecteur de CO2 dans une salle, permet de voir qu'il y a une augmentation de ce gaz, et quand ce gaz augmente au-delà d'un certain seuil, environ 800, eh bien, il y a un risque alors plus important de transmission. Un simple détecteur de CO2 de ce type permet de dire qu'il y a un moment où il faut ouvrir les fenêtres ou ouvrir les portes, et ça ne coûte qu'une vingtaine ou une trentaine d'euros.
Bah, c'était très important à préciser, parce que la question des moyens a des limites quand on voit aussi combien coûte la santé de nos concitoyens. Merci beaucoup, docteur Franck Claro. Je renvoie à votre collectif Du Côté de la Science, qui diffuse énormément de littérature intéressante sur le sujet. Delphine Burkly, maire du 9e arrondissement de Paris, et Cécile Diener-Frelicher, enseignante et responsable du SNALC pour l'Aquitaine. Merci à vous trois pour ces expériences et regards croisés.